Alexandre Delval, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue spécialiste notamment de l'islamisme, du terrorisme islamiste et des relations entre l'Europe et la Turquie. Votre dernier ouvrage s'intitule La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident et vous l'avez coécrit avec Jacques Sopelsa. Il est paru aux éditions de L'Artilleur en 2021. Alors, Alexandre Delval, aujourd'hui pour cet entretien, on va parler de l'élection présidentielle en Turquie qui oppose entre autres le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son
Oui.
adversaire social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, le premier tour s'est déroulé dimanche 14 mai et un fait inédit dans l'histoire de la Turquie, les électeurs turcs vont retourner aux urnes le 28 mai prochain pour un second tour, étant donné qu'aucun des deux candidats n'a obtenu 50% des voix. Alors, on a tout de même Erdogan qui est légèrement en tête. Mais est-ce que ce second tour, il signifie le début d'une brèche dans le règne d'Erdogan qui dure déjà depuis 20 ans?
Vous savez, je me rappelle en 2013 avec les manifestations du parc du Gezi organisées par toute la société libérale, les écolos et la gauche turque, qui avaient été réprimées par la police. On avait déjà dit que c'était la fin de l'ère d'organisme. On l'a redit en 2016 lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État. On l'a redit en 2018 aux élections législatives qu'il a quand même réussi à gagner avec l'alliance avec les nationalistes du MHP. Et on le redit aujourd'hui, mais il est quand même devant. Et beaucoup de présidents français auraient adoré avoir un score comme ça au premier tour. Donc c'est un effritement, mais qui n'est pas non plus énorme. Et il reste majoritaire, il reste assez majoritaire à l'Assemblée. Son opposant, parce qu'en fait il y a deux oppositions, son opposant Kılıçdaroğlu n'a pas réussi à faire une coalition extrêmement vaste. Il est allié au bon parti, mais les autres partis kurdes et d'extrême gauche, etc., eux, font un soutien passif. Et donc, ça ne compte pas comme un bloc. Et donc, si on compte parti par parti, l'AKP reste le premier parti et l'alliance AKP extrême droite bat l'alliance kémaliste et nationaliste plus ou moins modérée. Donc, moi, je relativiserais beaucoup cette chute. On est très loin d'une chute. On est tout au plus dans une petite baisse. Mais le génie politique, la bête politique d'Erdogan a réussi à retrouver du poil de la bête. Il a fait beaucoup de gestes sociaux un peu démagogiques au dernier moment, certes, mais surtout, il a tapé sur les Kurdes, les Alévis, comme d'habitude. Il a choisi son bouc émissaire intérieur, comme jadis les Juifs dans certains pays, et il a réussi à quand même à faire un score qui devrait lui permettre d'être réélu le 28 mai.
Alors, le bilan de Recep Tayyip Erdogan de ces 5 dernières années, il a tout de même récemment été entaché d'une part par la crise économique en Turquie, mais aussi par le violent séisme qui a frappé le pays en février dernier et qui a fait plus de 50 000 morts. Bon, le séisme, on le sait, c'est pas de la faute d'Erdogan. Cependant, toutes les affaires de construction sur des endroits dangereux ont quand même entaché son bilan. Le peuple s'est soulevé à ce propos. Alors, l'adversaire d'Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, il affirme que la volonté de changement au sein de la société turque, elle est supérieure à 50%. Mais est-ce que son programme, il est vraiment plus séduisant pour les Turcs?
Ben oui, parce que les Turcs ont la reconnaissance du ventre. Le succès de ce monsieur pendant des années était du fait qu'il avait réussi à faire un décollage économique. Il a encore tout un socle idéologique, à la fois extrême droite et surtout islamiste, qui lui est très favorable. Il a d'ailleurs fait une prière pendant les élections, dans Sainte-Sophie, qui a été très remarquée. Il a un côté identitaire qui plaît beaucoup aux Turcs sunnites, qui sont quand même très nationalistes, à part l'extrême gauche et quelques kémalistes, et même les kémalistes sont nationalistes. Et donc, quand il y a une crise économique, bien sûr, on lui en veut un peu, mais ses candidats, ses opposants n'ont pas donné de garantie comme quoi ils feraient mieux économiquement, puisqu'ils veulent se conformer un peu plus aux normes occidentales et du FMI, ce qui est considéré comme les Turcs comme de la rigueur et probablement des problèmes. Et donc Erdogan joue beaucoup sur la démagogie politique, idéologique, mais aussi économique, avec des aides qu'il a accordées, on ne sait pas avec quel argent, et il va continuer à faire tourner la planche à billets. Il ne veut toujours pas monter les taux, et il est en guerre un peu avec le pouvoir bancaire, mais pour l'instant, ce qu'il fait lui permet de retarder l'épreuve de force qui serait une rigueur que son candidat opposant est accusé de vouloir instaurer.
Et Kılıçdaroğlu se présente avec une coalition de 6 partis d'opposition à Erdogan. Et dans cette coalition, on a un petit peu de tout, hein, à savoir de la droite nationaliste, mais aussi du centre-gauche. Est-ce qu'une coalition comme ça, avec 6 partis, c'est viable dans un pays comme la Turquie?
En fait, la coalition de Kılıçdaroğlu, c'est essentiellement les Kémalistes et le Bon Parti. Une grande partie du reste de l'opposition a fait un soutien passif et ce n'est pas un bloc, c'est tous ces partis d'opposition. Donc déjà, l'opposition est divisée en ceux qui ont vraiment présenté des candidats en commun et ceux qui ont un soutien un peu plus lointain. L'alliance qu'a concoctée Kılıçdaroğlu, elle est uniquement une alliance contre Erdogan. Il y a pratiquement rien qui unit le parti kémaliste de Monsieur Kılıçdaroğlu, le bon parti ultranationaliste qui normalement déteste les Alevis comme Monsieur Kılıçdaroğlu. Les Alevis, c'est une minorité issue du schisme et qui est très chamanique et qui est très ésotérique, qui n'est même pas vraiment musulmane. Ils ont des temples, ils n'ont pas de mosquées. Ils sont considérés comme des apostats. Normalement, on peut affirmer que l'alliance qu'a fait Kılıçdaroğlu est vouée à exploser si jamais il gagnait au Parlement et à l'élection présidentielle. Déjà au Parlement, il n'a pas gagné, il est derrière. Il y a cinquantaine ou 80 voix derrière, si on compte toute l'opposition, même si on ajoute les partis qui n'ont pas fusionné, mais qui ont un soutien passif. Donc, ce n'est pas pareil que Lula. Lula, au Brésil, a gagné contre Bolsonaro, un peu de justesse, mais Bolsonaro avait beaucoup de gouverneurs, les principaux, et il avait une majorité au Sénat et au Parlement. C'est pas du tout le cas ici. Pour ce qui concerne les législatives, Erdogan a déjà gagné avec ses alliés. C'est important de le rappeler. Donc, c'est quand même, moi, je minimiserais beaucoup tout ce que l'on peut dire.
On comprend avec vous, Alexandre Delval, que Erdogan est loin d'être fini. Cependant, s'il ne remporte pas cette élection et que c'est son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu qui la remporte, est-ce qu'on peut penser à un rapprochement, un réel rapprochement de la Turquie avec l'Europe et l'Union européenne?
Alors là aussi, moi je reste très très méfiant. Vous savez que ceux qui sont le plus irrédentistes en Turquie, ce sont les nationalistes, et une partie des nationalistes est alliée à Kılıçdaroğlu, et les kémalistes également. N'oublions pas que c'est une alliance de nationalistes et de kémalistes qui est à l'origine de l'invasion de Chypre en 1974. N'oublions pas que concernant l'invasion des îles grecques, qui est une menace constante depuis des décennies, les kémalistes sont aussi durs, parfois même plus, au Parlement turc. Il y avait pas mal d'enregistrements, les experts le savent. On a des débats extrêmement houleux et très souvent, les kémalistes font mine d'être encore plus durs que les nationalistes pan-touraniens, pan-turquistes ou l'extrême droite. Donc, concernant la Grèce, Chypre, tous les grands dossiers qui divisent l'Occident et la Turquie depuis des années, rien ne peut changer structurellement, même si Monsieur Kılıçdaroğlu est probablement un homme de paix. Dans son parti, le parti kémaliste est quand même un parti qui a été fondé par Atatürk, qui est progressiste au niveau sociétal, mais qui est ultranationaliste. Chez nous, on les classerait à l'extrême droite. Le degré de nationalisme en Turquie est tel que les patriotes progressistes, parce que les kémalistes, c'est une sorte de gauche après patriotique, l'équivalent du chevènementisme en Turquie, c'est en fait plus l'équivalent de l'extrême droite lepéniste chez nous. On ne connaît pas le curseur. Donc, ce qui a l'air modéré en Turquie par rapport aux néo-nazis, fascistes et racistes des Lougris, qui sont le parti allié d'Erdogan, c'est le parti MHP, par contraste, les autres ont l'air modérés, mais ils sont extrêmement nationalistes Et je répète, pour Chypre et la Grèce, les grands contentieux avec l'Union européenne, ces contentieux vont rester parce qu'on a découvert énormément de gaz offshore en Méditerranée et ça a donné encore plus de motivation à tous ceux qui en Turquie, c'est-à-dire tout le monde sauf l'extrême gauche et les Kurdes, tous ceux qui veulent annexer les îles grecques et qui veulent continuer de coloniser Chypre, voire même un jour envahir Chypre pour pouvoir revendiquer tout le gaz qu'il y a autour de Chypre, de même que toute la classe politique turque patriotique ou nationaliste rêve de prendre des îles de la mer Égée et de s'emparer de tout le gaz offshore qu'il y a en Méditerranée orientale. Donc ça ne changera pas. Deuxièmement, pour la Syrie, vous savez qu'il y a la loi César américaine qui condamne et qui punit tout investissement d'une société occidentale ou autre pour reconstruire le régime syrien tant qu'il y a Bachar al-Assad. Or, Kılıçdaroğlu a une de ses premières déclarations en politique étrangère a consisté à dire qu'il allait se rapprocher de la Syrie et pacifier les relations avec la Syrie. On est quand même très loin de l'alignement vers l'Occident.
Effectivement. Merci beaucoup, Alexandre Delval, d'avoir accepté de
Vous
répondre
en
à nos
prie.
questions sur Radio JDK.
Ok, je vous en prie. Au revoir, merci.